Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sédoudia, bonjour. Le haut représentant de la coalition pour le Sahel, Djimé Adoum, a jugé mercredi inadmissibles les actes de viol commis au Niger par des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Ces soldats sont accusés du viol de plusieurs femmes à Téra, dans le sud-ouest du Niger, où est basé un contingent de leur pays dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel. Djimé Adoum parlait devant des journalistes lors d'un déplacement en Mauritanie, l'un des pays du G5 Sahel. Déjà, on a beaucoup de problèmes dans notre espace. Nous n'avons pas besoin et nous ne pouvons pas tolérer que de tels actes puissent avoir lieu, a-t-il enchéri. Le chef de la gendarmerie du Front Polisario, Ada Al-Bendir, a été tué par une frappe de drone marocaine dans le territoire disputé du Sahara occidental, a indiqué à l'AFP un haut responsable militaire sahraoui dans la nuit de mercredi à jeudi. Après presque 30 ans de cessez-le-feu, les hostilités entre le Polisario et le Maroc ont repris mi-novembre à la suite du déploiement de troupes marocaines dans une zone tampon de l'extrême sud du Sahara occidental pour en déloger des indépendantistes qui bloquaient la seule route commerciale vers l'Afrique de l'Ouest, car cet axe routier est, selon eux, illégal. En Côte d'Ivoire, feu vert du président Alassane Ouattara pour le double retour de son rival et prédécesseur Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, un ancien ministre de ce dernier. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec l'analyste politique André Silver Conan, joint à Abidjan par Blanche Salon. Au Nigeria, la police et les médias locaux ont annoncé hier que des hommes armés ont attaqué un autre poste de police dans le sud-est du pays, peu après une évasion massive imputée à l'IPOB, qui milite pour l'indépendance de l'ethnie Igbo. Le groupe a démenti toute implication. Deux semaines après une attaque djihadiste d'ampleur qui a ravagé Palma dans le nord-est du Mozambique, le président Philippe Nyusi a affirmé que les rebelles avaient été délogés de la ville portuaire stratégique sans pour autant crier victoire. Le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelle, qui règne sans partage depuis 1999 sur ce pays de la Corne de l'Afrique, a tenu mercredi un dernier rassemblement électoral avant l'élection de vendredi qui devrait être sa dernière. Abdourahmane Dia nous en parlera. L'Éthiopie a annoncé mercredi qu'elle allait poursuivre le remplissage de son méga barrage sur le Nil malgré le contentieux persistant avec ses voisins en aval, l'Égypte et le Soudan, qui n'écartent aucune option pour défendre leurs intérêts. Nous y reviendrons avec Marius Mohonga. Les grands argentiers des pays du G20 ont annoncé mercredi une nouvelle extension de 6 mois jusqu'à la fin de l'année du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, durement frappés par la pandémie de coronavirus, lors d'une réunion virtuelle présidée par l'Italie. Les caillots sanguins doivent être répertoriés comme un effet secondaire très rare du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a reconnu mercredi le régulateur européen, tout en estimant que la balance bénéfice-risque restait positive. Les États-Unis ont annoncé mercredi la reprise de leur aide aux Palestiniens contre l'avis d'Israël et réaffirmé leur soutien à une solution à 2 États, en recentrant leur position par rapport à celle adoptée par l'ancien président Donald Trump. Nous aurons les détails avec Mohamedou Houmfa. La santé du principal opposant russe Alexei Navalny, emprisonné en colonie pénitentiaire, malade et en grève de la faim, continuait de se détériorer mercredi avec une perte de sensation dans ses mains et 10 kilos en moins. Procès de Derek Chauvin à Minneapolis, le policier blanc employé une force létale disproportionnée lors de l'arrestation de George Floyd, a estimé mercredi un expert.
la suite de nos informations, les Djiboutiens se rendent aux urnes demain vendredi pour choisir leur président. Ismaël Omar Guelleh, 73 ans, le président sortant, part largement favori face à son challenger Zakaria Ismaël Farah, un homme d'affaires de 56 ans. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le président Ismaël Omar Guelleh, qui dirige le pays depuis 1999, a tenu mercredi un dernier rassemblement électoral avant cette élection qui devrait être sa dernière. Dans un court discours en langue somalie, le président a lancé un appel à l'unité et au développement du pays. Ces quatre mandats ont été marqués par un développement de l'économie reposant sur l'essor des ports et des structures logistiques convoitées par les grandes puissances, mais aussi par un exercice du pouvoir autoritaire, laissant peu de place à la contestation ou à la liberté de presse. En face, Zakaria Ismaël Farah est un novice en politique et s'est plutôt fait un nom dans les produits de désinfection. En l'absence des leaders historiques de l'opposition qui boycottent le scrutin, cet inconnu du grand public représente la seule alternative au président Guelleh qui a remporté avec plus de 75% des voix chaque élection présidentielle à laquelle il a participé. En 2010, une réforme de la Constitution a supprimé la limitation à 2 mandats présidentiels, mais aussi instauré un âge maximum de 75 ans pour les candidats.
L'Éthiopie a annoncé hier qu'elle allait poursuivre le remplissage de son méga barrage sur le Nil, malgré le contentieux persistant avec ses voisins en aval, l'Égypte et le Soudan, qui ont, eux, assuré n'écarter aucune option pour défendre leurs intérêts. Des détails avec Marius Muhunga.
L'Éthiopie a annoncé mercredi qu'elle allait poursuivre le remplissage de son méga barrage sur le Nil. Malgré le contentieux persistant avec ses voisins en aval, l'Éthiopie et le Soudan, qui ont, eux, assuré n'écarter aucune option pour défendre leurs intérêts. Malgré l'impasse diplomatique, le remplissage continuera pendant la saison des pluies, a annoncé mercredi le ministre éthiopien de l'eau, Selechi Bekele. « Nous n'y renonçons en rien », a-t-il martelé. Ces déclarations interviennent au lendemain de l'échec des négociations de Kinshasa sous les auspices du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Le barrage de la Renaissance, d'une contenance totale de 74 milliards de mètres cubes d'eau, est construit dans le nord-ouest de l'Éthiopie, près de la frontière avec le Soudan. L'Éthiopie affirme que l'énergie hydroélectrique produite par le barrage est vitale pour répondre aux besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui fin mars avait déjà évoqué une instabilité inimaginable si le barrage menaçait une goutte d'eau égyptienne, a réitéré lors d'une cérémonie dans l'est du Caire ses mises en garde, soulignant que toutes les options sont ouvertes. De Khartoum, le ministre soudanais de l'irrigation Yasser Abbas a lui aussi averti Addis Abeba que pour son pays, toutes les options sont possibles, y compris le retour au Conseil de sécurité et la voie d'un durcissement politique si l'Éthiopie entreprend le deuxième remplissement sans accord. Les pourparlers doivent reprendre avant la fin du mois, a indiqué mardi soir la diplomatie éthiopienne.
Ici aux États-Unis, l'administration Biden a annoncé mercredi la reprise de l'aide américaine aux Palestiniens. Cette assistance interrompue sous la présidence de Donald Trump atteindra 235 millions de dollars. Mohamed Houmfa fait le point.
Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a expliqué que l'aide américaine au peuple palestinien sert les intérêts et les valeurs des États-Unis. Elle apporte une aide cruciale à ceux qui en ont besoin, favorise le développement économique et soutient le dialogue israélo-palestinien. C'est pourquoi le gouvernement américain va à nouveau accorder de l'aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les États-Unis contribueront au financement de cette agence à hauteur de 150 millions de dollars. Washington versera aussi 75 millions de dollars pour le développement et l'économie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et 10 millions de dollars pour le processus de paix, soit un total de 235 millions de dollars. Une bouffée d'oxygène pour l'agence onusienne qui dit avoir entamé l'année 2021 avec un passif de 75 millions de dollars résultant de l'exercice de l'année 2020. Mais cette aide ne fait pas le bonheur de tous. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Gilad Erdan, a exprimé sa déception et son désaccord. Selon lui, les États-Unis auraient dû d'abord s'assurer que certaines réformes soient accomplies, visant notamment à mettre un terme à l'antisémitisme.
La Minute Éco, Michel Joseph.
Le secteur mondial du transport aérien continue de subir les effets de la pandémie de COVID-19. Le nombre des passagers continue de chuter sur les voyages internationaux. L'Association internationale du transport aérien parle d'une baisse de 74,7% par rapport à février de l'année dernière. Les restrictions des déplacements internationaux sont l'une des causes de cette contraction. Par contre, les liaisons aériennes domestiques semblent moins touchées, rappelant que les compagnies aériennes ont perdu 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. L'Association internationale du transport aérien prévient que les résultats de cette année seront pires. Le Zimbabwe se frotte les mains. Sa récolte de tabac pourrait augmenter de 9% cette année. Une bouffée d'oxygène pour ce pays. La production du tabac zimbabwéen devrait atteindre 200 millions de kilos du fait d'une bonne pluviométrie. L'an passé, ce produit a rapporté 782 millions de dollars de précieuses devises pour le Zimbabwe. À noter que le secteur du tabac reste le plus grand pourvoyeur d'emplois dans ce pays, en proie depuis plusieurs années à une crise économique.
Merci Michel. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La FIFA a suspendu la Fédération tchadienne de football. La suspension a été motivée par les récentes décisions des autorités gouvernementales tchadiennes de retirer définitivement les pouvoirs délégués à la Fédération tchadienne de football, d'établir un comité national pour la gestion temporaire du football et de prendre le contrôle des locaux de la Fédération. La suspension sera levée dès que les décisions gouvernementales en question auront été abrogées et que la Fédération tchadienne de football et sa direction, dirigée par le président Mokhtar Mahmoud Hamid, auront confirmé à la FIFA que les locaux de la Fédération sont à nouveau sous son contrôle. C'est ce qu'indique la FIFA pour justifier sa décision. Hier, en Ligue des champions en Europe, le Paris Saint-Germain, aidé par un doublé de Kylian Mbappé et un gros match du Sénégalais Idrissa Gana Gueye, a fait tomber 3-2 le Bayern à Munich en quart de finale aller dans un remake de la dernière finale remportée en août par les Bavarois. Le Camerounais du Bayern, Éric-Maxime Choupo-Moting, a inscrit un but. Dans l'autre quart de finale aller, Chelsea a gagné 2-0 contre Porto grâce à des buts de ses Anglais Mason Mount et Ben Chilwell dans un quart délocalisé à Séville pour raisons sanitaires. Athlétisme, le marathon préparatoire aux Jeux de Tokyo du Kenya Eliud Kipchoge aura finalement lieu le 18 avril à Enschede aux Pays-Bas en raison du Covid-19. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs de cette course initialement prévue à Hambourg en Allemagne le 11 avril. L'épreuve d'Enschede servira donc d'ultime répétition au recordman du monde et champion olympique avant les JO de l'été prochain. Pour beaucoup d'autres athlètes, environ 70, cette épreuve constitue une des dernières chances de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo qui commencent le 23 juillet, l'échéance de qualification étant fixée au 31 mai. Ici, aux États-Unis, le Comité olympique et paralympique américain a réaffirmé son opposition au boycottage des Jeux d'hiver de Pékin en février 2022. Les boycotts de la part des sportifs ont prouvé avoir des conséquences négatives sur les athlètes, tout en y répondant aux problèmes internationaux de manière satisfaisante, a justifié Suzanne Lyons, la présidente du Comité olympique américain, refusant l'idée que les espoirs de médailles américains soient utilisés comme des pions sur l'échiquier politique. Madame Lyons a insisté, je cite, « Pour nos athlètes, le seul rêve est de représenter les États-Unis d'Amérique ». Fin de citation.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé au cours du Conseil des ministres de mercredi que l'ancien président Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. La CPI a, le 31 mars, définitivement acquitté M. Gbagbo de crimes contre l'humanité. Blanche Sanou a joint à Abidjan l'analyste politique André-Sylvère Conan.
Alors, cette annonce intervient dans un contexte assez original. Hein, le premier contexte, on va dire, immédiat, c'est l'acquittement total des deux personnalités par la Cour pénale internationale. Le deuxième contexte, un peu lointain, c'est l'élection présidentielle d'octobre 2020 qui a été maillée de grandes violences. Il y a eu au moins 86 morts. Il y a une volonté d'écrispation de la scène politique en Côte d'Ivoire. Il y a une volonté d'aller de l'avant, de tourner la page de cette crise post-électorale qui a duré plusieurs mois en 2010, et dont les conséquences étaient encore bien visibles en Côte d'Ivoire. Donc, je crois qu'il y a une volonté de déclaration de la part du pouvoir, du président Alassane Ouattara, et c'est quelque chose qui ne va pas du tout déplaire à une bonne partie des Ivoiriens.
Selon vous, quel changement cela peut apporter dans l'avenir politique en Côte d'Ivoire?
On a trois grands partis politiques qui rythment la vie politique en Côte d'Ivoire, à savoir le PDCI d'Henri Konabédié, le RHDP de la Salouatara et le FPI de Laurent Gbagbo. Alors, le président Alassane Ouattara est en train de chercher à recomposer la classe dirigeante au sein de son parti politique pour y avoir l'émergence de leaders d'une nouvelle génération. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore eu ce cas-là, dans tous les cas, il vient juste de sortir des ennuis judiciaires. Je pense qu'il a pris l'intention de reprendre les choses en main. Et donc, au niveau du GFP, son parti politique est divisé par deux courants, la branche légale dirigée par Pascal Afikessan et la branche dirigée par Asso Adou, qui lui-même est très proche de Laurent Gbagbo. Sans doute le retour de Laurent Gbagbo va contribuer à la réunification du FPI, ce qui n'est pas forcément très sûr. Mais au moins, ce sera le parti entier au niveau du FPI et au niveau du PDCI, évidemment. Henri Konabédié reste le maître du jeu. Donc, je ne vois pas très bien en quoi est-ce que ce retour va vraiment bouleverser des situations politiques en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas, d'autant que les prochaines élections, c'est quand même dans 3 ans.
Joint à Abidjan, l'analyste politique André-Sylvère Conan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le Rwanda a commémoré ce 7 avril le début du génocide de 1994 qui a coûté la vie à quelque 800 000 Tutsis et Hutus modérés. Ce jour marque aussi le début du deuil national. Plusieurs cérémonies ont été organisées officiellement à Kigali mais aussi en privé par des familles endeuillées à travers le monde. Au Rwanda, les proches des victimes se sont rendus au mémorial du génocide à Kigali pour leur rendre hommage. Honoré Gatera dirige le centre du mémorial de Kigali où sont enterrés les restes de plus de 250 000 personnes. Nani Talani l'a joint par téléphone.
La commémoration, c'est le moment pour le peuple rwandais de rendre hommage aux victimes du génocide, de penser à ce qui s'est passé dans notre pays. C'est le moment de réfléchir à l'histoire qu'on a vécue parce qu'un génocide se prépare. On a vécu dans l'idéologie de la haine et des divisions jusqu'au génocide. On a un bon nombre de Rwandais qui sont en jeune âge. Parmi eux, il y a un bon nombre qui n'a pas vécu physiquement le génocide, mais bien sûr ont vécu dans les conséquences, que ce soit physiques ou psychologiques. C'est le moment de se mettre ensemble encore comme Rwandais pour réfléchir ce que représente ce passé et notre présent qui nous aide à préparer le futur. On a une mémoire qui toujours nous dit qu'on a perdu plus d'un million de Tutsis tués pendant le génocide. On aimerait continuer ensemble comme les Rwandais unis qui veulent construire une nation forte qui prépare un meilleur avenir pour la génération nouvelle du Rwanda.
Comment est-ce que cette commémoration permet de réconcilier les Tutsis et les Hutus et toutes les personnes qui vivent au Rwanda?
Tout initialement, quand on parle de la réconciliation, c'est parce qu'il y a eu un moment ou un événement qui a amené la population à se séparer. Donc, on parle de l'unité et de la réconciliation parce qu'on a vécu dans les divisions, on a vécu dans les idéologies génocidaires et on a vécu un génocide. Tout le monde qui dirait que la mémoire ou la commémoration d'un génocide ne contribue pas à la réconciliation aurait tort. Parce qu'on se réconcilie pour le moment et dans l'avenir parce qu'on a vécu un génocide. Donc, garder la mémoire, c'est un outil qui toujours nous enseigne ce qui nous a séparés et la raison pour laquelle nous devons nous unir, nous devons nous réconcilier comme un peuple qui n'est pas Tutsi, qui n'est pas Hutu, qui n'est pas toi, qui n'est pas, je dirais, d'autres groupes, mais un peuple qui connaît le fruit des divisions, le fruit de la haine, le fruit d'un mauvais leadership. Et pour cette raison, un peuple qui aimerait bien se mettre ensemble et s'unir pour reconstruire le pays et construire un avenir meilleur.
Vous dirigez le mémorial du génocide de Kigali. Qu'est-ce que le musée représente pour les familles des victimes surtout?
Tout le mémorial, non seulement le musée, le présente une deuxième maison, une deuxième famille pour eux. Parce qu'ils disent que c'est là où ils peuvent visiter leur famille emportée par le génocide. Ils disent souvent, quand on est ici, on pense qu'on est à la maison, on est en famille encore. C'est là où ils ont une connexion avec l'erreur qu'ils ont perdue il y a 27 ans.
Honoré Gatera, directeur du Centre du Mémorial de Kigali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, volte-face de l'ancien rebelle, le général Bala Ladé, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril a été invalidée par la Cour suprême. En exil à Dakar, au Sénégal, il était rentré à la suite d'une négociation que le président Idriss Déby Itno a eue avec lui pour qu'il vienne appuyer sa candidature. Sur le terrain, des acteurs politiques constatent des erreurs d'ordre matériel au niveau de la CENI qui, selon eux, pourraient entacher la crédibilité de cette élection. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
En exil pour ses ennuis avec le régime de N'Djamena, l'opposant Bala Ladé rallie son adversaire d'hier, le président candidat Idriss Déby Itno, avec armes et baluchons pour soutenir sa candidature. Un retour sans coup et fait rire alors qu'au lendemain de sa disqualification pour être candidat à la magistrature suprême du 11 avril prochain par la Cour suprême, Bala Ladé avait soutenu les actions citoyennes des forces vives pour exiger le dialogue inclusif avant la tenue de cette élection. Il donne les raisons de son revirement en pleine campagne.
Il y a toujours un temps pour toutes choses. Les Tchadiens ont beaucoup souffert. Donc moi, si je suis revenu, j'ai choisi la voie de la paix. Nous voulons que ce pays retrouve vraiment l'unité de son peuple. Et l'unité ne se fait pas dans l'opposition. Moi, j'ai fait mon choix. Je connais que le maréchal candidat, Idriss Déby Itno, est le meilleur maire et des maires. Donc j'ai choisi le maire.
À quelques jours de cette élection, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur ce revirement. En plus de l'appel au boycott lancé par les forces vives, les cartes d'électeurs semblent connaître certaines irrégularités. On parle d'électeurs avec plusieurs cartes et aussi des cartes avec des erreurs ou omissions des noms de leurs détenteurs.
J'ai retiré ma carte. Il n'y a pas mon nom, il y a le nom de mon papa et il y a le nom de ma mère. Donc, je ne peux pas voter. Il n'y a pas mon nom, je vais voter comment.
C'est toi, dis-toi, mais on m'a donné ce mandat. Un aïe sans saisir. Moi, j'ai demandé pourquoi ils vont saisir un aïe. Après, ils vont ramener ça au nouveau décennie. C'est une embarras perdue.
Au 6e arrondissement, une électrice venue pour retirer sa carte a eu une vive altercation avec un agent distributeur. Alors que cet agent n'avait pas eu les cartes à distribuer aux électeurs.
Je vais dire à Dédi que tu ne vas pas me donner la carte.
Oui, je te donne pas.
Tu ne me donnes pas.
Vas-y, oui, va lui dire, je te donne.
Depuis une semaine, si je dis, et tu ne veux pas me donner ma carte, ça c'est ma troisième fois maintenant pour aujourd'hui. Je suis un peu plus que toi. Hein? Et pourtant, les gens en train de parler à la radio, récupérez vos cartes, récupérez vos cartes.
Tous ceux qui n'ont pas encore trouvé là, jusque-là.
Maintenant là, en fait, ma manière de faire là que les gens disent que c'est dit, c'est pas bon, bon là.
Dans le 7e arrondissement, la plus grande commune de la capitale qui abritera à elle seule plus de 200 bureaux de vote, beaucoup d'électeurs ont une dizaine de cartes chacun. Contacté par VOA Afrique, le service de communication de la CENI parle d'un problème technique au niveau de l'imprimeur qui est en train d'être réglé. Une situation que dénonce Natoyala Ringar, porte-parole du mouvement des 12 revendications.
La CENI, je pense qu'elle a fait ça sciemment. C'est une machine de vol qui est déjà mise en scène pour le premier tour. Nous sommes même en train de s'organiser pour les présenter publiquement. Au vu aussi de tout le monde, révéler encore tant d'autres choses qui sont obscures. Nous avons en quantité, en qualité, si vous voulez dire.
Pour qu'une élection soit véritablement crédible, il faut que l'environnement électoral soit exempt de violence, de menaces et d'intimidation. Si ces trois éléments fondamentaux ne sont pas réunis, l'on ne parlera plus d'une expression libre de suffrage, a déclaré un spécialiste tchadien en question électorale. André Koduma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Nil, source de tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Les négociations entre les trois pays ont repris à Kinshasa pour tenter de résoudre la crise née de la construction par l'Éthiopie d'un grand barrage que l'Égypte et le Soudan considèrent comme une menace pour leur approvisionnement en eau. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi met en garde contre une instabilité inimaginable dans la région. Comment résoudre cette crise du Nil? La médiation du président Tshisekedi a-t-elle des chances de réussite? Qu'en est-il des autres pays que le Nil traverse? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Mon petit ville touristique, la crise a eu un impact sur l'activité économique de cette ville malienne. L'un des secteurs affectés aujourd'hui est celui de la vente des jars. Notre correspondant Mohamed Danioko est allé à la rencontre des actrices de ce secteur et il nous parle de leurs difficultés.
Sur les berges du fleuve Niger à Mopti sont installées des vendeuses de jars et d'encensoirs. Des produits très prisés par la population comme Diakité Hawaba venu s'en procurer. Je l'achète pour y mettre des médicaments. Certaines l'utilisent pour conserver de l'eau. Ça refroidit l'eau et ce n'est pas trop grand non plus. Après les marchandages, elle trouve que les prix ont sensiblement augmenté depuis un certain temps. C'est devenu cher. Je viens d'acheter cette jarre à 1500 francs, alors qu'avant, je l'achetais à 750 francs. Mais depuis peu, les prix ont doublé. Pour les vendeuses, cela est dû à la crise sécuritaire que traverse la région. En plus des clients, elles disent elles aussi être victimes de la situation. Arkianienta. On a de la peine à écouler nos produits. Les endroits sont fermés. On a donc des difficultés. Les filles qui sont là sont mes enfants et sont à ma charge. Leur père vit à Gao. Donc, ce que je gagne ici, c'est ce qui nous permet de subvenir à nos besoins. Si on n'a rien ici, c'est compliqué. Aujourd'hui, elle sollicite l'aide des autorités et des partenaires de l'État à travers des projets pour pouvoir tenir le coup. Fatoumata Samasekou. Ceux qui viennent de Bamako nous en achètent souvent. Les touristes qui achetaient beaucoup ne viennent plus. Nous voulons qu'on nous vienne en aide avec des projets pour nous permettre de traverser cette période de crise. Dans la ville, vendeuses et clientes ont le même souhait, voir la crise finir et le retour des touristes qui font tourner l'économie de la région. Mohamed Danioko pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.